On est content de le retrouver, hey, pour la première fois de la saison dans cette nouvelle case horaire et cette nouvelle plage horaire. Notre bon ami David Etegui qui est avec nous. David, comment vas-tu?
Comment ça va, les amis?
Ça va très bien, ça va très bien. David, je veux prendre le temps. Je sais que c'est avec un peu de retard, mais je veux te souhaiter un joyeux anniversaire quand même de vivre voix en onde comme ça, David. Bonne fête en retard.
Merci, Stéphane. C'est vraiment apprécié. Puis j'en profite, vu que tu parles de ça, de souhaiter un bon anniversaire à ma bonne amie et ancienne collègue chez nous, Chantal Maccabé, aujourd'hui.
C'est aujourd'hui, Chantal? Ben oui, tu
oui,
as bien
on, a,
dire.
On a 5 jours de différence, moi et elle. Je lui ai écrit un peu avant, là. Puis en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis
ben
on a quelques jours de différence, donc j'en profite pour y aller, moi aussi, avec des...
Nous aussi, tu fais bien,
pour
nous aussi.
Chantal.
On se joint à toi pour lui souhaiter bonne fête à Chantal. J'espère que la santé va bien. La dernière fois, je l'ai vu, tout allait bien, puis... Elle allait bien, elle avait vraiment amélioré sa santé. Et là, j'espère qu'elle est prête pour une belle saison du Canadien de Montréal. David,
oui.
Saison du Canadien de Montréal, on a tous hâte que ça commence. Ça commence la semaine prochaine avec l'ouverture du camp des recrues. D'ailleurs, il y aura les matchs aussi des recrues le week-end prochain. Ça avance à grands pas, là. C'est des bonnes nouvelles. Puis on va repasser un petit peu l'été du Canadien de Montréal ensemble. Tiens, si tu le veux bien. Aujourd'hui, je vais poser la question aux gens. Quelles notes ils vont donner à l'état-major du Canadien là, avec les acquisitions et tout le reste? On va les passer une à une. Débutons avec cette bombe au repêchage, David. L'acquisition de Noah Dobson. D'un, je veux que tu me parles un peu de l'arrivée de Noah Dobson avec le Canadien de Montréal, puis à quel point tu vois ça comme une bonne nouvelle, l'acquisition Dobson.
Une nouvelle incroyable. Moi, j'étais tellement excité. J'étais content pour les Canadiens de Montréal parce que tu te retrouves, on est tellement fort du côté gauche de la défensive. On a des prospects incroyables, Hudson, ainsi de suite, Goulet. À la droite, bon, il y a Ryan Backer éventuellement, mais c'est pas une garantie d'être une vedette
ou
un pilier à la droite. Et des défenseurs comme lui, ça arrive jamais. Je veux dire, à l'âge de 24, 25 ans, 26 ans même dans certains cas, des gars comme lui, ça n'existe pas. Donc, il se retrouve là. Le gars, en plus, veut venir à Montréal. C'est un gars qui va manger des minutes. Il va être capable de faire en sorte que tout le monde est à sa case et bien positionné. Les droitiers avec les droitiers, les gauchers avec les gauchers. Éventuellement, Ryan Backer va se mêler à tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment une acquisition. Honnêtement, Stéphane, je m'attendais pas à cette acquisition avant le début de l'été. Et là, quand c'est arrivé, c'était comme, waouh, on vient d'aller chercher un vrai pilier à la droite. Donc, c'est toute une acquisition pour les Canadiens de Montréal. Je pense que c'est unanime à travers la Ligue nationale que ce gars-là, c'est un gros plus pour les Canadiens.
Ah, totalement. Quand on voit en plus le prix payé pour des défenseurs droitiers, là, tu te dis, tu vas chercher un premier défenseur droitier, un gars qui joue énormément de minutes, comme tu as dit en plus, qui veut venir jouer à Montréal, qui a signé à long terme. Ça, c'est une pièce qui est importante pour la suite des choses chez le Canadien de Montréal.
100%.
Maintenant, l'acquisition de Bolduc qui débarque à Montréal contre Logan Mailloux. On le savait, tu as parlé du côté droit. On dirait que chaque offre de transaction ou rumeur, ça impliquait Logan Mailloux, qu'il faut dire, on l'a dit plus tôt cette semaine, mais on le rappelle aux gens, était un choix de l'ancienne garde chez le Canadien de Montréal. Ça n'a pas été un choix de Kent Hughes et Jeff Gorton, même si on l'a développé. À quel point tu évalues cette transaction-là et à quel point tu as été surpris par cette transaction-là?
Honnêtement, premièrement, moi, j'aime beaucoup, je crois au potentiel de Logan Mailloux.
Ouais.
Je suis pas en train de dire qu'il va être un numéro 1 ou un numéro 2, mais certainement un top 4, il est capable. Je croyais en lui. Si on ne va pas chercher Dobson, on peut peut-être pas faire cette transaction avec la même aisance. Et le fait qu'on a été capable d'aller chercher Dobson, on est capable de laisser partir un Mailloux sans être inquiet. Et tu vas chercher un gars comme Bolduc, mais quand j'ai vu cette transaction au départ, je veux rien enlever à Mailloux que j'aime beaucoup, mais pour moi, j'ai dit, bon, ça doit être une rumeur, c'est pas vrai, une chose pareille. C'est pas possible qu'on ait été chercher un gars qui a marqué 19 buts à sa saison recrue, qui a tous les attributs d'un attaquant de puissance, un gars, un Québécois qui veut, qui est déjà dans le temps, il parlait de Montréal en bien avant même d'être pêché. Et là, tu le retrouves à rentrer ça dans le mix avec tous les jeunes de stage-là qu'on a déjà, les Slaps, les Hudson, tout ça, des Midos. Tu rajoutes un gars qui va certainement, à son potentiel, on est peut-être d'accord, un marqueur de 30 buts. OK, c'est conservateur et c'est réaliste. Donc, je pense que les Canadiens ont été cherchés un joueur extraordinaire dans le casse-tête, en n'ayant le, par le fait qu'ils ont été capables d'aller chercher Dobson et par ricochet pouvoir libérer un gars comme Mayo.
Ah, totalement d'accord avec toi. Honnêtement, à l'époque, je parlais souvent avec Simon Gagné quand il était avec les Remparts, puis il était dithyrambique à l'endroit de Bolduc, avec ses deux saisons de 50 buts. Mais comme tu dis, puis il l'a souvent expliqué aussi, il a modifié son jeu, il a ajouté du papier sablé à tout ça. Puis ça, c'est quelque chose qui manque, David, aux Canadiens de Montréal. On le disait tout le temps, de pouvoir ajouter cette dimension-là, t'en auras jamais assez. Fait que de pouvoir mettre ça avec un gars qui est capable de marquer, ça va être un élément important pour le Canadien de Montréal. On a parlé de Dobson, on a parlé de Bolduc, David, mais il y a un point qui n'est pas encore réglé et on verra si ce sera éventuellement réglé. Mais il n'y a pas eu d'acquisition de deuxième centre pour le Canadien de Montréal. Tu le sais, l'année passée, on en a jasé en long et en large. T'en penses quoi de ça? Est-ce que c'est parce que... On le sait que le Canadien a été actif. C'est pas qu'il n'a pas essayé. C'est finalement, je veux dire, c'est pas tombé encore en place pour qu'il y ait un deuxième centre qui arrive à Montréal.
C'est plus difficile qu'on pensait. Hein? Ben on pensait que ça allait être beaucoup plus simple parce qu'il y avait quand même des joueurs comme Duchesne, toutes sortes de joueurs disponibles comme UFA. Il y avait des RFA. On a dit, est-ce qu'il va y avoir des offres hostiles? Il n'y en a pas eu. On a dit qu'il va y avoir des transactions. Il n'y en a pas. Et là, on se retrouve un peu à la dernière minute. Moi, j'ai pas jeté l'éponge. Je pense qu'il y a encore une chance que les Canadiens aillent chercher ce joueur de centre parce que malheureusement, ils en ont tellement besoin. Et écoutez-moi bien, je suis pas en train de dire qu'ils en ont besoin parce qu'ils doivent faire les séries l'année prochaine. Ils en ont besoin pour la progression des joueurs cette année. Si tu veux que Demidov progresse, tu veux que Newhook continue, tu veux que Dak s'améliore, même s'il est à l'aile, tu veux que certains joueurs continuent à avancer, Bolduc, tu veux, ils ont besoin de ce centre, ne serait-ce que pour éduquer, continuer cette progression, et à l'heure actuelle, ils l'ont toujours pas fait, et la ligne de centre, on la voit à l'heure actuelle, elle fait vraiment dur, là. Je veux dire, j'ai pas de problème avec numéro 1 et 4, on est très bien avec Suzuki numéro 1, on est très bien avec Evans numéro 4, mais 2-3, c'est vraiment deux points d'interrogation énormes. Et je pense qu'ils vont encore tout faire pour faire cette transaction. Je leur souhaite avant le début du camp.
C'est ça le problème. T'sais, hier, on en parlait brièvement, mais ils sont tous déjà à Brossard, puis ils s'entraînent ensemble, puis Kirby Dach était avec Laine et Demidov. Là, j'aime bien Kirby Dach, puis tu sais, ça aurait été le fun que ça puisse fonctionner, mais là, les blessures à répétition, puis le fait que ça ne s'est pas trop fonctionné au centre aussi, je vais donner la chance encore au gars, mais tu peux pas débuter la saison. Mais c'est ça, tu peux pas débuter la saison, tu sais. À quel point, donc, toi, la confiance là, avec Dach au poste de joueur de centre,
non,
là, on oublie ça.
Ça marchera pas. Exact. Je vais t'expliquer pourquoi. J'étais le premier à dire il y a 3 ans, lorsqu'il était arrivé à Montréal, qu'il avait une première saison exceptionnelle, j'ai dit, peut-être ce gars-là, ça peut être un futur Getzlaf, si on le travaille. Là, il y a eu des blessures. Psychologiquement, ça a été difficile. Là, il s'est remis en question. Il est revenu avec du moins 26. Ça a été horrible. Et la réalité, c'est pas que je crois pas en lui en tant que joueur de hockey. Mais avec ce qui vient de passer, lui dire c'est toi maintenant le centre numéro 2 puis tu dois être productif là à ton retour.
Non.
Je pense que c'est beaucoup sur ses épaules. Ce gars-là, une victoire, pour lui, ça serait quoi? Être un ailier sur un deuxième trio, dans le meilleur des scénarios, sur le troisième, et produire une quarantaine ou une cinquantaine de points, ça serait une grande victoire pour Dach. Mais là, lui demander de runner Demidov et relancer Laine, exemple, c'est trop lui demander.
Trop.
Et les Canadiens, oui, ils le savent, les Canadiens. Et c'est pour ça que je dis, j'abandonne pas, je pense qu'ils vont encore tout faire pour aller chercher ce joueur de centre avant le début de la saison.
C'est ça aussi, c'est que tu veux pas montrer non plus que tu es désespéré, tu sais, tu veux pas envoyer,
non.
C'est sûr que publiquement ils vont dire qu'ils sont à l'aise de pouvoir retrouver, tu sais, c'est un gars qui fait partie de l'échiquier et tout le reste, mais en même temps, tu sais, tu parles de ce qu'on lui souhaite. Oui, moi je le voyais à l'aile cette année, je me dis, tu sais, il aurait peut-être pu jouer à l'aile sur un troisième, éventuellement un deuxième pour dépanner, mais je lui souhaite en bout de ligne la santé. Si la santé est là, il va peut-être pouvoir retrouver un peu son identité ou du moins se la forger parce que pour le moment, dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas clair c'est quoi son identité à Kirby Dach.
Il faut qu'il se retrouve puis il est dans une année de contrat. Mais le centre numéro 2 des Canadiens de Montréal dans une année d'explosion, là, c'est peut-être pas idéal pour lui.
Hey David, avant d'aller en pause, c'est la question qu'on va poser aux gens aujourd'hui sur la note que les gens vont donner à l'état-major du Canadien de Montréal pour les emplettes de la saison estivale. Dobson, Bolduc, mais pas de deuxième joueur de centre. Tu donnerais quelle note?
Je donnerais un moins. Si on y va avec des moins,
avec
ou des
lettres,
plus aussi, là.
Ouais, sinon.
On y va avec un A moins, je dirais pas un A. Oui, le joueur de centre est trop important.
Ben oui.
Les deux acquisitions, pourquoi c'est pas un A ou un A plus? Les deux gars, Dobson et Bolduc, c'est wow! comme nouveaux joueurs qui ont réussi à rentrer. Sauf que d'un autre côté, le vrai besoin de l'équipe en début d'été, c'était un joueur de centre et ça n'a toujours pas été comblé. Donc pour ça, ça ne peut pas être un A+.
Si tu pognais ton A+, ton A-, mettons, puis tu le mettais en chiffre, tu le mettrais à combien, David? Tu le quantifierais à combien?
Moi, j'irais à 85 facile.
OK, 85. Donc 8,5 sur 10 pour
David. Oui, c'est excellent. Là.
Ben oui, c'est une bonne note.
Un des 5 meilleurs étés de toute la Ligue nationale, on est tous d'accord, je pense.
Tu vois, là, les notes commencent à rentrer également. Alors, regardez vos notes, on en parlera un peu plus tard. Un nom qui fait beaucoup jaser et qui fait surtout jaser depuis le 1er septembre, son nom, c'est Carey Price. À Montréal, on s'en sort pas. Peut-être qu'on va s'en sortir quand il sera transigé. On verra. On a entendu Kent Hughes dire à Eric Engels également cette semaine qu'il n'est pas obligé d'échanger Carey Price. En même temps, c'est encore une fois quelque chose qui va véhiculer aussi pour... T'sais, il dira pas, il n'a pas le choix de dire ça. Est-ce que tu penses, toi, qu'il sera échangé et à quel point tu es à l'aise avec ça de le voir quitter?
Vous savez, Carey, ça a été un client pendant des années, un ami des années. Il doit être échangé. Il n'y a pas de problème avec ça, dans le sens où moi, je pense qu'il va être échangé. Ils n'ont pas le choix. Les Canadiens ont besoin de cette latitude. Les Canadiens, on ne veut pas jouer en début de saison, à commencer à envoyer des gars dans la Ligue américaine. On ne veut pas commencer à avoir cette difficulté. Et par surcroît, on veut aller chercher du renfort au centre. Et on veut se donner la latitude pour dire on fait le deal. On fait le deal. Maintenant, si on est maintenant, Stéphane, on dit ça à nos auditeurs, si maintenant je suis le 1er juin ou le 5 juin, je panique pas avec ça, parce que j'ai tout l'été pour faire une transaction et puis me dire, bon, ben après, je vais gérer ça. Mais là, on arrive là presque au début de la saison. Donc là, il faut que tu trouves des solutions. Ça veut dire, l'étau, il est en train de se resserrer. Donc, est-ce que je pense que Carey va être échangé? 100%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est que, je parle pas de Carey, je parle de Kent Hughes. C'est que là, lui, il va être obligé de payer pour s'en départir. Et la raison, elle est simple. C'est qu'à un moment donné, on se disait, ben là, les équipes vont vouloir le prendre pour aller couvrir toucher le minimum, le cap minimum,
le plancher,
le plancher. Le problème, c'est que toutes les équipes de la Ligue l'ont atteint.
Ouais.
OK, donc là, ils n'ont plus le gros bout du bâton, les Canadiens. Maintenant, ça devient quoi? Quelle équipe veut de la flexibilité et quelle équipe veut des assets, veut des choix au repêchage, veut des prospects B, C, peu importe. Qui veut donner des contrats qu'il ne veut plus avoir? Je parle au niveau... Peut-être, on parle de San Jose qui aurait 49 contrats déjà de signer. Ouais. On veut en débarrasser. C'est ce genre de négociation. Et je pense que Kent Hughes, à l'heure actuelle, son objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas de panique, qu'il n'est pas pressé, qu'il peut dealer avec. Mais d'un autre côté, quand sur la montre, ça veut dire minuit moins une minute, il va devoir tirer sur la gâchette et échanger Carey. Et moi, de mon côté, les amis... Il y a quasiment personne qui aime Carey autant que moi, vu que c'est un ami personnel. Et je peux vous dire, Carey, ça le dérange pas ce qui arrive. Puis souvenez-vous, là, dans le temps où Marc Bergevin, l'ami disponible pour le Kraken, tout le monde s'en souvient.
Ouais.
Si, après la finale de la Coupe Stanley. S'ils ont été capables de faire ça, c'est qu'il y avait... Marc en avait déjà parlé à Carey pour dire, écoute, je vais te mettre là-dessus, ta carrière est peut-être terminée, ainsi de suite. Mais là, il y avait vraiment un risque que Carey parte et qu'il joue pour une autre formation, ne serait-ce qu'une demi-saison ou 5 parties ou peu importe, porter un autre chandail. Mais à l'heure actuelle, ça n'arrivera pas. Et les grands des Canadiens, Bob Gainey, Guy Lafleur, Larry Robinson, Serge Chavard, Doug Harvey, les plus grands joueurs qui ont leur numéro retiré, ils ont tous joué pour d'autres équipes. Ils n'ont pas joué que pour les Canadiens. Donc, ça n'enlève rien à Carey Price, qui appartient sur papier à une équipe pendant une période de quelques mois.
C'est très bien dit, David. Moi, ce que je vais trouver intéressant, d'un, c'est très bien résumé. Tu sais, on verra. Bon, Mike Greer l'a fait à quelques reprises avec les Sharks, c'est aller chercher des choix pour ci, pour ça. Ce que je vais trouver intéressant, c'est de voir les négociations là-dedans. Parce que Kent Hughes et Jeff Gorton, depuis qu'ils sont arrivés en poste, ne donnent pas de choix pour prendre des contrats, pour donner des contrats. T'sais, on l'a vu par le passé, puis ils ont été capables de faire des moves où on se disait « Wow, OK, ils n'ont pas cédé pour ça. » Par contre, le geste de Carey Price, cette transaction-là, c'est un effet domino. Si tu libères le salaire de Carey Price, ça donne également plus de latitude pour peut-être aller chercher un joueur de centre. C'est là où on va voir, est-ce qu'ils vont être capables de est-ce qu'ils vont se dire « Cette fois-ci, on n'a pas le choix de le donner le
c'est
choix pour pouvoir. »
J'analyse ça un peu différemment, je t'explique vite fait. C'est que moi, je me dis, Si les Canadiens y échangent Carey Price dans les prochains jours ou les prochaines semaines, je suis quasiment sûr qu'on annonce une transaction en même temps. Pourquoi? Parce que l'urgence de devoir le libérer pour aller chercher un joueur d'impact au centre doit être liée au coût qu'on va donner pour se débarrasser de Carey.
Ouais.
Donc, si tu es obligé de donner un choix de deux, ou tu es obligé de donner un prospect de haute qualité pour te débarrasser de lui, tu as intérêt à le faire parce que tu as été chercher un joueur de centre. Pas rien que parce que tu veux faire, tu veux pas avoir de.
À rouler ton
cap salarial, envoyer un gars dans l'américaine, le ramener. Si c'est rien que pour ça, Kent a raison. Je peux le garder, Carey. Puis je vais me contorsionner avec mes joueurs pour fitter sous le cap. Mais pour aller chercher ton joueur de centre qui te manque, t'as pas le choix de l'échanger. Donc moi, ce que je m'attends, si vous entendez, Carey Price a été échangé, exemple X, à Chicago, attendez-vous dans l'heure qui suit ou les trois prochaines heures qu'on annonce une transaction pour un joueur de centre.
Ouais, ça, je suis d'accord. Tu vois, on est d'accord là-dessus en voulant dire l'effet domino va faire en sorte que
oui.
Si tu procèdes à une transaction, c'est parce que t'as quelque chose d'autre qui s'en vient. Sinon, tu le feras pas.
Exact.
Tu l'échangeras pas juste pour l'échanger. Ça donne rien à ce timing-là, tu sais. Les propos de Kent Hughes maintenant sur Patrick Laine, comme quoi ils se sont parlé après la saison, puis il a dit, regarde, ton temps de jeu c'était ça, voici les trucs qu'il faut peut-être que tu améliores pour pouvoir aller chercher un meilleur temps de jeu. En gros, là, c'est le jeu à 5 contre 5. Est-ce que tu es confiant?
Ouais.
On s'attend pas à une transformation complète. Ça arrivera pas. Patrick Laine, c'est Patrick Laine. Mais au moins une implication qui est plus grande. Est-ce que la santé, est-ce que la volonté, est-ce que la dernière année de contrat aussi qui donne des ailes à bien des joueurs, David, va faire en sorte qu'on verra peut-être un Patrick Laine un peu différent cette année?
Ça va être le meilleur Patrick Laine qui reste dans Patrick Laine que vous allez voir. Il n'y aura jamais un meilleur Patrick Laine que ce que vous allez voir à partir du mois d'octobre à Montréal. Ça sera le meilleur Patrick Laine. Pour toutes les raisons que tu as dit, Stéphane. Il joue son contrat. Il joue sa carrière. Il veut rester à Montréal. Il aime Montréal. Il est encadré. Il est supporté. Il veut signer un bon contrat avec de l'argent. Il y a tout. Il y a la santé. Il est en forme. Il est motivé, il s'est entraîné l'été, il a tout fait ce qu'il fallait, il a écouté les recommandations, il a tout fait. Vous allez avoir le meilleur Patrick Laine possible. Donc, si ce Patrick Laine ne fonctionne pas, c'est que le Patrick Laine ne fonctionnera jamais plus ailleurs non plus. C'est la meilleure version de Patrick Laine. Donc, à moins d'une blessure que je ne lui souhaite pas, je m'attends à une saison où il va avoir début, une implication, beaucoup plus de cœur dans son jeu, beaucoup plus d'efforts. Il va falloir qu'il joue plus rapidement avec la rondelle, qu'il s'en départisse plus rapidement, qu'il exécute des jeux, qu'il soit plus combatif. Donc, il y a des choses qu'il va falloir qu'il fasse et je pense qu'il va tout donner. Vous allez avoir la meilleure version de Patrick Laine. Ouais. Mais, ça lui prend un bon joueur de centre, Stéphane.
Ouais. Ça lui prend la santé, David.
Ah, ben oui, mais t'as la santé, puis tu lui mets, exemple, New Hook. J'ai rien à voir, j'ai pas de problème avec New Hook.
Non.
Ou on lui met Dak qui vient de revenir. Mais comment est-ce qu'on l'évalue, ce gars-là? Donc, en réalité, faut lui donner des éléments. Et à Demidov, la même chose. Pour leur permettre une éclosion à chacun à sa manière.
Totalement d'accord avec toi, David. David, c'était un beau premier tour de patinoire ensemble. Oui, on parlera du contrat de Lane Hutson la prochaine fois, si tu le veux bien. Il y en a beaucoup qui se grattent le coco, mais c'est correct. Le Canadien a le temps encore, de toute façon. On va parler des recrues également la semaine prochaine. David, encore une fois, un gros merci. Une bonne première semaine, puis on se parle la semaine prochaine, mon ami.
Merci, mon Stéphane, ça m'a fait plaisir. Bonjour à tout le monde.
Yes, David Etegui qui est avec nous tous les jeudis à compter de 11h20.